WTO! Kids promise! No WTO!
Le grain de sable. Pensée globale. Une émission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
Le grain de sable sur Radio Canus 102.2. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Jonathan pour parler de toutes les lois sur le renseignement, sur la surveillance, donc qui ont été publiées ou qui sont en cours de publication ces dernières années. Alors bonjour Jonathan.
Bonjour.
Alors déjà, qu'est-ce qui a fait que tu t'intéresses à ça ?
Donc moi, en fait, j'ai fait des études en sécurité informatique. Et j'ai poussé jusqu'au doctorat. Donc, mon sujet de thèse, c'était justement étudier un petit peu comment on peut se protéger des attaques informatiques. Donc, c'est plus du tout un sujet sur lequel je travaille maintenant, mais je suis maintenant enseignant-chercheur, donc maître de conférence à l'INSA de Lyon. Et je donne toujours des cours en sécurité informatique. Et on verra par la suite que ça a une certaine importance. Aussi, je m'intéresse à tout ce qui est algorithmes, qui sont justement un peu le cœur de la surveillance généralisée maintenant.
D'accord. Et ça fait donc longtemps que tu t'intéresses à ces questions ?
Ça fait... pour moi, je ne pouvais pas m'intéresser au sujet de la sécurité informatique sans savoir l'impact que ça aurait sur la société. Donc ça fait plus de 10 ans que je m'intéresse à ces lois et souvent à lutter contre ces lois. Pour moi, ça a même commencé avant les lois de surveillance, puisque les lois de surveillance, en fait, la première, c'était le but, c'était surveiller Internet, pas pour surveiller les gens, mais pour défendre une industrie, l'industrie du disque. Donc c'était la loi qui s'appelait DAVSI et qu'on connaît maintenant sous le nom de Hadopi. Donc le but de cette loi, c'était quand même de laisser à un organisme privé la surveillance d'Internet. Donc c'était vraiment le tout début. Et là, le premier but de la surveillance, c'était vraiment protéger une industrie. Et on verra que par la suite, ça a évolué. Mais il y avait quand même cette volonté finale, au final, de surveiller tout le monde. Mais il fallait bien pouvoir l'amener d'une certaine manière, parce que c'était pas possible tout de suite de l'amener. Là, maintenant, ils sont dans l'aspect où ils peuvent dire on va surveiller tout le monde. Mais à l'époque, il y a plus de 10 ans, c'était pas encore possible.
Donc ça montre aussi qu'il y a des prétextes qui peuvent être différents, là, parce que, et puis qu'il y a des sujets sur le renseignement qui peuvent être différents, qui peuvent être le commercial, ou après, par la suite, la sécurité.
Alors, ça a commencé par le commercial. Après, pendant très longtemps, on a eu le mythe de la pédopornographie sur Internet, qui était librement disponible, etc. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont fait passer plein de lois, ça n'a rien changé. Parce que au final, ils s'en sont pas plus servis que ça. La plupart de ces lois-là, quand même, ils les passent les unes après les autres sans vraiment savoir si elles sont utiles, si elles sont même applicables.
Et est-ce qu'il y a les outils techniques aussi derrière pour les appliquer ?
Alors, malheureusement, bien souvent, oui, il y a les outils techniques. Et tout particulièrement en France, il faut savoir que à ce niveau-là, on est quand même très 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 fort. Donc, pour rappel, en France, on est l'une des premières, si c'est la deux ou troisième plus grosse industrie au monde en termes de surveillance, des différents moyens de communication. Et même si au début on n'a pas utilisé ça nous-mêmes en France, on l'a vendu à d'autres pays.
Donc on l'a fait tester par d'autres, en fait.
Voilà. Alors, un des très bons exemples où, bien sûr, l'entreprise a entièrement refusé, n'a jamais dit que c'était elle, c'était Amesis, qui est une société qui a été rachetée par Bull, qui est contrôlée en grande partie par l'État français. Donc cette société, elle a vendu la surveillance à Kadhafi. Et on a les preuves que ça a été utilisé pour torturer des gens et puis pour bien sûr pour fliquer tous les opposants, mais aussi ça allait jusqu'à la torture. Et au moment de la révolution, on a retrouvé la documentation de ce logiciel. Les dernières informations qu'on a à ce niveau-là, c'est que le système est toujours fonctionnel en Libye. C'est juste qu'on ne sait plus trop qui contrôle, mais il est toujours en place. Donc, il serait toujours utilisé par quelqu'un. On a aussi une société française qui est issue d'un grand laboratoire d'informatique parisien de Jussieu, de Paris 6, qui a fourni du matériel pour espionner les opposants en Syrie. Et puis après, on en a proposé un peu partout, dans toutes les grandes démocraties qu'il y a un peu partout dans le monde, tout particulièrement dans le Moyen-Orient. Donc on est bien placé pour ça, et donc on a le matériel.
Est-ce qu'on fournit aussi les États-Unis ? Est-ce qu'on est meilleur qu'eux ou...
Alors, aux États-Unis, pour une raison simple, on peut pas les fournir parce que tout ce qui est... tout ce qui appartient à l'armée, il faut que ça soit une entreprise américaine. Donc non, on les fournit pas. Mais bon, on est vraiment très très bon dans le domaine. On est malheureusement très bon dans le domaine. Donc on a les moyens techniques, mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas. Avec la DAPSI, Adopi, ils avaient voulu mettre en place un logiciel de sécurisation que tout le monde était obligé d'installer chez soi, pour prouver que ça venait pas de chez nous le piratage de CD de musique ou autre. Donc là-dessus, à l'époque, on s'était vraiment beaucoup battu en expliquant que justement, moi je savais qu'à l'époque, je concevais ce genre de logiciel en disant mais c'est tout simplement pas possible. Et ça part de quand même, et ça c'est toujours le cas, d'une mauvaise connaissance des politiques, des nouvelles technologies. Et donc ils votent des choses sans forcément se rendre compte que ça soit applicable, mais aussi que finalement ça va concerner tout le monde et que ça tout le monde va être espionné en fait indirectement, même s'ils disent non mais ça va concerner que quelques personnes, c'est pas possible, ça va finalement concerner tout.
Et puis en fait, même si ça concernait que quelques personnes, j'imagine que les renseignements qu'on peut récupérer ne concerne pas que le sujet en question, mais on peut se retrouver avec tout des questions de par rapport à son emploi, par rapport à sa santé, par rapport à...
C'est ça. On va ils vont pas faire dans les détails, et progressivement il y a des lois qui ont été votées pour pouvoir au final recouper les fichiers de tout ce qui existe et donc récupérer toutes les données, et donc ça va aller en effet de la santé, le permis de conduire, les infractions, mais aussi où il travaille, quel site il va visiter sur Internet, etc. On pourrait dire oui, mais dans ce cas-là, Internet en fait, d'accord, mais je vais que sur des sites web sur Internet. En fait, il faut voir que maintenant tout passe sur Internet, donc le téléphone, les SMS, la télé. Indirectement, tout passe sur Internet. Donc, c'est vrai que la surveillance d'Internet, c'est quand même quelque chose de très fort. C'est-à-dire la surveillance d'à peu près tous les moyens de communication qui ne sont pas discutés en face à face. Donc, c'est une puissance qu'ils ont énormément là-dessus. Mais ils se rendent pas compte qu'Internet, c'est pas franco-français. Donc on peut avoir une approche de l'Internet national, c'est ce que fait la Chine ou l'Iran, où ils disent Internet, nous, on contrôle tout ce qui sort de notre pays, et on contrôle de manière très très stricte ce qui est fait à l'intérieur de notre pays. Donc ça marche en Chine, faut voir que ça coûte très 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 cher. Ils ont énormément de gens qui sont recrutés pour ça, qui sont payés à surveiller, à lire tout. En France, on n'en est pas encore là, mais c'est vrai qu'on a une dérive qui est très autoritaire, et même par rapport aux autres grandes démocraties comme sont par exemple d'autres pays européens ou même les États-Unis ou encore plus le Canada, c'est vrai qu'on est un petit peu à part. Les États-Unis, ils ont voulu aller vers cette voie-là, mais en général, il y a eu suffisamment une levée de la société civile et des grandes entreprises aussi pour dire non, on veut surtout pas ça. Donc ils se rendent pas compte que il y a beaucoup de sites français par exemple qui sont hébergés à l'étranger, donc ils disent il faut aller éteindre le site. Oui, mais si c'est dans une société, dans un pays où qui est pas forcément ami, ou même un pays ami mais qui a pas la même législation, on se retrouve à ne pas pouvoir appliquer.
Et même si on décide de faire son site, voilà, je me mets sur WordPress ou autre chose, là je fais un site, on ne sait pas forcément exactement où il est hébergé.
C'est ça, on ne sait jamais. Sur Internet, on ne se rend pas forcément compte où il est. Donc c'est vrai que c'est ce qui peut poser aussi un problème de notre côté, parce que c'est-à-dire que ce que je rappelle souvent, c'est que avec ces lois de surveillance et avec la surveillance qui est faite par d'autres pays, au final, on choisit pas d'être surveillé ou pas surveillé, mais on choisit par qui on va être surveillé. C'est-à-dire que si je vais chez un hébergeur français pour mettre mes mails, par exemple, je vais choisir d'être surveillé par le gouvernement français. Si je vais chez Google avec Gmail, je vais accepter d'être surveillé par le gouvernement américain. Mais c'est des sociétés qui, de toute façon, sont légalement obligées de donner ces informations au gouvernement et donc n'iront pas rarement à l'encontre de ça. Bien, le but, c'est vraiment de pouvoir bloquer les informations et de pouvoir contrôler les informations, comme on l'a vu, par exemple, pendant la Révolution égyptienne, où ils ont coupé tous les moyens de communication pour bloquer, justement, la Révolution. Ça n'a pas fonctionné, même si...
Il y a une différence entre bloquer, couper, et puis... récupérer les informations et être en capacité aussi de les analyser, les lire, les rapprocher.
Donc, la première grosse bataille d'un point de vue politique avec ces textes de loi, ça a été le blocage, de pouvoir bloquer les sites internet. Donc au début, il n'y avait pas vraiment de moyen d'un point de vue judiciaire de le faire. Donc ça, avec l'OPSI, la loi il y a 10 ans, la première loi de surveillance sur les nouveaux moyens de communication, ça a été justement de dire on va pouvoir bloquer les sites internet. Mais il y a eu une grosse levée de toute la gauche pour dire il fallait que ça soit validé par un juge. Donc par la suite, la gauche a mis beaucoup et surtout le PS a mis beaucoup de vin, beaucoup d'eau dans son vin, et maintenant on en est avec la dernière loi où il suffit qu'un ministère dise je veux que tel site soit bloqué et il est bloqué, on a perdu justement tout contrôle des juges. Je pense que c'est aussi ça qui est très important.
Et c'est quand même qui décide qui va être bloqué, c'est le ministère lui-même.
Ça peut être ou un des services, mais il n'y a plus de passage d'un point devant un juge. Il y a un juge qui contrôle que il y a bien que le mécanisme existe pour bloquer le site, mais c'est tout. En soi, il valide pas l'ajout ou la suppression d'un site internet ou d'autres choses dans cette liste. Donc ça, c'est vraiment ce qui a changé en 10 ans, c'est avoir réussi à faire accepter par texte de loi la sortie du juge de ces différentes décisions de blocage et de surveillance sur Internet.
Et ça, c'est quel texte de loi qui le prévoit ?
Alors, avec la LOPSI, c'était vraiment le tout début. Et après, avec la LPM, ils ont commencé à mettre ces premières choses. C'était la loi de programmation militaire qui date de 2013. Et avec la loi antiterroriste de 2014, ça a été possible de bloquer des sites internet sans contrôle de juge. Donc là, c'était vraiment le début. Et puis là, maintenant, avec les lois de renseignement et puis la nouvelle loi de protection de la nation, qui est en projet. Là, on va encore plus long.
Mais il y a quand même des critères dans la loi ou
Les critères sont tellement larges en fait que la question est de savoir quels critères choisir, parce que de toute façon quand on parle de sécurité nationale, quand dans la texte de loi on dit sécurité nationale, tout peut être amené à ça. Donc c'est vrai que de toute façon le terrorisme ça peut aussi s'appliquer à beaucoup d'organisations. Hein. On se souvient de Tarnac où justement sur des soupçons ils avaient commencé à faire une enquête et puis il y avait rien derrière. Donc on sait que ces textes de loi ils sont pas uniquement pour les terroristes de Daesh, mais ils sont applicables à tout le monde. Et vu l'étendue de ce qui est considéré comme étant de la sécurité nationale, vraiment tout est applicable.
Oui, parce que c'est la définition du terrorisme. Et j'imagine que les dernières lois, elles passent facilement après les attentats. Mais on oublie que peut être considéré comme terroriste, justement des gens, des zadistes, des gens qui se battent pour protéger l'environnement.
C'est pas que puisse être considéré. C'est qu'on a même vu pendant la COP21 que ces lois étaient effectivement utilisées contre le mouvement altermondialiste, écologiste. Donc on a vu des gens mis arrêtés, mis à résidence. on ne sait pas, mais forcément surveillé. Il y a eu sûrement une surveillance qui a été mise en place, aussi bien humaine que après sur Internet ou sur les différents moyens de communication. Donc c'est vrai que ces lois-là, elles sont loin de se limiter à aller s'attaquer à des gens qui sont loin ou qui ont fait des actes de terrorisme. Non, ça s'applique à tout le monde et il faut faire attention parce que surtout avec les dernières lois, c'est pour arrêter et pour surveiller une personne. En fait, maintenant, ce qu'ils ont peur là, c'était la loi. Ça a commencé justement avec les attentats, avec la loi antiterroriste. C'était vraiment de 2014. C'était vraiment chasser le loup solitaire. Sauf que le loup solitaire, c'est quelqu'un qui est seul. Donc, pour pouvoir le détecter, il faut surveiller tout le monde. Donc, c'est-à-dire que depuis 2014, le but, c'est de surveiller l'ensemble de la population française et de détecter les comportements anormaux. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont analyser tout ce qu'il y a sur Internet, donc récupérer tout ce qu'on fait sur Internet.
Donc, est-ce qu'ils en ont la capacité?
Et malheureusement, oui, ils ont la capacité. Actuellement, c'est pas un problème d'un point de vue informatique, d'analyser tout ce qui se passe sur Internet.
C'est-à-dire de repérer des mots-clés
C'est-à-dire des choses quand même plus compliquées, voir que je suis allé visiter tel site web, puis tel site web, et que j'ai tapé tel mot-clé, des choses qui sont un peu... Peut-être qu'en même temps, j'ai envoyé un SMS à quelqu'un qui a envoyé un SMS à quelqu'un. Donc c'est vraiment reconstruire l'ensemble des communications et des interactions entre les personnes pour justement détecter des comportements anormaux. Alors eux, ils sont très sur l'auto-radicalisation sur Internet. Donc est-ce que je suis allé voir telle vidéo sur Facebook, puis après je suis allé sur YouTube, et puis après je suis allé lire tel texte sur tel site. Donc c'est ce genre de choses qu'ils veulent détecter. Mais pour ça, il faut surveiller l'ensemble de la population française. C'est-à-dire savoir tout ce que fait les gens. Et donc, dans ce cas-là, abandonner tout concept de vie privée, vu que l'État a accès à tout.
Donc, ça pose la question, d'une part, de la surveillance massive, c'est-à-dire tout le monde, et puis sur différents champs qui ne sont plus seulement des champs vraiment sécurité nationale. Puisqu'on se dit qu'il y a certaines informations, on l'a vu avec l'état d'urgence, c'était pas forcément les djihadistes, mais ils se sont quand même retrouvés.
C'est ça, mais là actuellement avec les nouvelles lois, le but c'est pas uniquement le djihad. Le djihad c'est la plus ou moins la bonne excuse du moment, quoi. Elle est peut-être un peu plus valable que la pédopornographie à une époque parce qu'ils semblent un peu utiliser les textes de loi pour faire quelque chose. Mais avant, c'était le piratage sur Internet de musique. C'est de toute façon le but ultime, c'est de pouvoir tout surveiller pour pouvoir tout contrôler. Donc c'est vraiment cette dérive qui est très très autoritaire. Après, heureusement, il y a à chaque fois des gens qui se battent contre ces textes de loi, mais il y a même des institutions françaises, la CNIL, depuis la DAPSI, se bat contre ces différents textes de loi.
Parce que c'est normalement l'institution qui protège vraiment les données personnelles. Donc CNIL, c'est-à-dire
Commission nationale informatique et liberté.
Donc elle a plus de pouvoir dans ces cas-là ou un pouvoir très réduit?
En fait, la CNIL a toujours eu la capacité de donner un avis. Mais après, est-ce qu'on suit ou pas cet avis, libre au gouvernement ou aux députés de suivre ou pas cet avis. C'est toujours été consultatif. Donc, suite à la DAPSI, la CNIL s'était battue contre ça, parce que ça a été quand même une mise en place de surveillance, en plus externalisée à une société privée. Ils ont été punis en n'ayant pas de place à Hadopi. C'est-à-dire que la CNIL n'a même pas d'avis à donner là-dedans. Donc la CNIL, ils se battent à chaque fois, mais ça fonctionne pas. Sur la dernière loi de renseignement, il y a même l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, donc qui est la grande agence qui chapeaute toute la sécurité informatique au niveau gouvernemental, mais qui va aussi aller aider les entreprises à se sécuriser, qui va venir quand il y a eu un piratage dans une grande entreprise, un ministère, des choses comme ça, qui est contre la loi renseignement. Parce qu'ils disent que justement ces boîtes noires là qui vont permettre de détecter automatiquement des comportements anormaux, c'est pas possible parce que c'est un risque, un très grave risque de dérive. C'est vrai qu'on sait pas qui va nous gouverner, mais il aura accès à ces boîtes noires. Il faut quand même pas oublier ça.
Donc surtout s'il y a des boîtes privées dans l'affaire.
De toute façon, derrière, tout ça, c'est externalisé à des grandes entreprises. Alors, on a vu en France, on a un très très bon écosystème d'entreprises franco-françaises qui sont capables de le faire, hein, mais quand même, c'est un vrai risque.
On voit déjà, rien que sur les commerciales, on va visiter un site qui vend un truc, on commence à recevoir de la pub dès l'heure suivante. Donc c'est bien qu'il y a quelqu'un qui sait derrière et qui renvoie de l'info.
C'est ça. Quand on commence à taper une requête sur Google, on se pose une question, il complète la réponse avant qu'on y ait pensé. Donc c'est exactement la même chose qui est mise dans ces boîtes noires. Donc on voit que si Google peut le faire à l'échelle mondiale, on ne devrait pas avoir trop de problèmes à le faire à l'échelle française. En plus, avec les nouveaux textes de loi, les fournisseurs d'accès Internet et les grands opérateurs sont obligés d'installer ces boîtes noires dans leur réseau. Donc, ce n'est pas une question de devoir aller placer des petits boîtiers cachés chez les opérateurs. Non, ils sont légalement obligés de le faire et ils le feront tous. Parce que, de toute façon, il n'y a pas le choix.
Mais on a entendu parler il n'y a pas longtemps, je sais pas, c'était le FBI, je crois, qui demandait à Google ou à Apple de débloquer des téléphones.
Alors, ouais, là, c'est un peu différent. C'était donc le FBI a récupéré un téléphone portable d'un pseudo-djihadiste qui avait tué des gens. En fait, ce téléphone portable, c'était un iPhone. Et il y a un code à taper pour pouvoir le déverrouiller. Et il voulait avoir accès à ces données. Le FBI a dit, nous on est très intelligents, et ils ont voulu trouver le code tout seul. Sauf qu'au bout de 4 essais, le téléphone il se verrouille, et donc après ils avaient leur téléphone qui était tout verrouillé, et qu'ils avaient pu pouvoir faire grand chose. S'ils ne l'avaient pas fait, Apple aurait pu les aider, sans avoir à mettre en place tout un système. Là, ce qu'ils ont demandé à Apple, c'est de leur donner un programme qui permet de passer outre les sécurités qu'ils ont mis dans leurs iPhones.
Et donc, il pourrait marcher sur tous les téléphones.
Il pourrait marcher sur tous les iPhones. Et le FBI, ils ont dit, oui, mais en effet, si on a ça, on a aussi plusieurs centaines de téléphones iPhone qui traînent là, et puis on aimerait bien y accéder. Donc, c'est pas que pour le terrorisme, c'est aussi pour tout un tas d'autres histoires qui voulaient avoir accès à ça. Apple a refusé de le donner. Alors, bon, on pourrait dire, oui, Apple... Et là, pour la vie privée des gens, etc., il ne faut pas quand même exagérer. C'est aussi un très bon moyen de vendre leur téléphone. S'ils étaient prêts à plier à n'importe quel gouvernement, on se dirait la prochaine fois, c'est la Chine ou c'est un autre pays. Et puis, ils ne vendraient plus de téléphone. Donc, bien sûr, c'est très bien. Finalement, le FBI a retiré leur plainte parce qu'ils ont trouvé quelqu'un qui pouvait déverrouiller le téléphone. Parce qu'au final, c'était quand même un moyen pour eux d'accéder à tous ces téléphones, d'accéder à un seul téléphone. En soi, il y a toujours des entreprises privées qui arriveront à pirater un téléphone. Mais c'est vrai que en France, on a un petit peu ce débat aussi qui vient, c'est sur tout ce qui est maintenant nos téléphones, ils sont chiffrés. C'est-à-dire que si la police n'a pas le code, ils peuvent pas récupérer les données. Et ça, ils ont du mal un peu à le supporter. Donc, dans la nouvelle loi, alors c'est pas dans la loi renseignement, ça doit être justement dans celles qui sont en train de préparer la loi de protection de la nation. Ils veulent mettre un article qui oblige toutes les entreprises qui vendent des mécanismes de chiffrement à donner une manière à l'État de pouvoir déchiffrer ces données. Donc, ça veut dire, par exemple, qu'Apple serait obligé légalement de donner un mécanisme pour ça. Il y a un peu le même débat aux États-Unis, hein, qui est quand même l'autre grande puissance qui aime bien faire de la surveillance. À côté, on a l'autre opposé, on a les pays scandinaves et l'Allemagne, surtout l'Allemagne, qui détestent tout ce qui est surveillance. À chaque fois qu'ils ont essayé de faire passer le moindre texte de loi, ça a tout de suite bloqué. Eux, ils ont des mauvais souvenirs des services secrets. Ils sont très, très sensibilisés à ça, nous, moins. Et donner un mécanisme à l'État pour déchiffrer les données, c'est laisser une porte d'accès plus ou moins facile. Et donc, si on le donne au gouvernement français, déjà, on va être plus ou moins être obligé de le donner à tous les gouvernements dans lesquels sont vendus ces produits, peu importe que ça soit une dictature ou une démocratie, tout le monde va le demander, cet accès. Et puis, ça va vite fuiter dans différents milieux, et donc tous les réseaux criminels ou n'importe quel pirate aura accès à ça. Donc c'est au final affaiblir la sécurité de tout le monde.
Oui, surtout qu'on peut imaginer une dictature qui dit bah si les démocraties exemplaires le font,
voilà,
pourquoi pas nous.
C'est ça. C'est là, avec ces textes de loi, on arrive à aller plus loin que des dictatures auraient rêvé de le faire. Et il y a plusieurs fois, on entend parler dans ces textes de loi, surtout pour les loups solitaires, de détecter des comportements anormaux. Donc déjà, il faudrait savoir, pour ça, pour détecter un comportement anormal, surtout dans un système informatique, il faut savoir ce que c'est un comportement normal. Sauf qu'un comportement normal, c'est à peu près impossible. Ça, savoir est-ce qu'une personne est plus normale qu'une autre, ça veut déjà rien dire. Et puis, du jour au lendemain, on peut changer nos habitudes, etc. Donc, au final, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est la bonne excuse pour pouvoir tout surveiller. Et puis, bon, on stocke et on verra plus tard.
Il peut y avoir quelques ratés. Je sais qu'il y avait des. Au travail, on a des filtres sur Internet assez forts. Mmh. Et une fois, j'ai eu interdit d'aller sur une page qui était juste une page de l'INSEE. J'allais voir juste les chiffres sur la démographie. Et effectivement, dans un tableau, il y avait sexe, parce qu'il y avait homme-femme.
C'est ça.
Et bah oui.
C'est ça. Alors, première chose, les logiciels qui sont vendus souvent pour les entreprises, pour le filtrage en entreprise, ils se font à partir de mots-clés ou de listes de sites internet. Un des gros fournisseurs de ça, le principal actionnaire, c'est l'Opus Dei. Donc, après, on peut supposer que peut-être ils influencent un petit peu sur les listes. Et donc, sexe, bon, c'est peut-être pas mal pour eux. Donc, ça fait un petit peu peur. Mais au final, là, on se retrouve à que ça soit chez nous aussi, ce filtrage pourrait se faire. Et en Australie, ils ont mis en place ce type de filtrage. Mais eux, ils ont eu un superbe raté. Ils ont voulu bloquer un site internet. Ils en ont bloqué 250 000. Donc ça s'est tout de suite vu. Y avait le Pakistan aussi qui avait voulu bloquer une vidéo YouTube. Ils ont redirigé, ils ont coupé en gros un quart du trafic Internet quand ils ont voulu faire ça. Alors c'était il y a quelques années, Internet était un peu moins connu, mais n'empêche que à chaque fois, il y a toujours des risques de surblocage. Donc ou de toute façon, s'il n'y a pas de risque de surblocage, c'est souvent que c'est un petit peu, ça sert à rien en fait leur blocage. Actuellement, l'une des techniques de blocage, c'est ils bloquent le nom de domaine, l'adresse qu'on tape www.google.fr. Ils bloquent ça. Mais par exemple, si on va sur www.google.fr, ça c'est pas possible. Ça, celle-là, elle est pas bloquée. Donc, faut vraiment le bloquer les unes après les autres. Donc, des fois, il bloque un petit peu tout, des fois, il bloque un peu rien. Donc, c'est aussi souvent ça. Hein. C'est le blocage, ça permet aux gens peu motivés de plus avoir accès à l'information, mais quelqu'un qui est motivé et qui a des connaissances vraiment minimales en informatique arrivera toujours à accéder à ces sites bloqués. Donc, ça fonctionne quand même pas. S'il y a un très bon exemple, c'est la Chine qui, là, pour le coup, en met partout du blocage. Et pourtant, les dissidents, ils arrivent quand même à y accéder aux sites étrangers. Donc, on peut supposer que ça ne sert en plus pas à grand-chose de bloquer ces sites-là.
À part que ça peut faire en sorte qu'on dise qu'il faut encore aller plus loin dans les lois, dans la surveillance.
C'est ça, ou ça permet d'aller plus loin, mais au final, c'est pas
vraiment. C'est un nouveau prétexte pour continuer.
C'est toujours un nouveau prétexte, mais c'est pas. C'est aussi une méconnaissance quand même assez forte des politiques sur les capacités technologiques de le faire. Pour eux, ils se disent c'est bon, on le bloque, il suffit de mettre un policier devant le site internet, mais ça marche pas comme ça. Donc c'est aussi quand même une très très forte méconnaissance du fonctionnement.
Oui, tu parles de méconnaissance par rapport à ce qui a été voté. On peut aussi se demander s'il n'y a pas une certaine naïveté. Donc cette loi, elle a été votée facilement, ou il y a eu beaucoup de discussions, ou vraiment c'est.
Au début, il y avait des vraies discussions quand même avec le psy. Il y avait eu un vrai mouvement de contestation. Il y a eu des vraies discussions. Là maintenant, à part quelques journalistes spécialistes qui vont aller écouter les débats puis lire les textes de loi. Non, il n'y a pas de débat. De
Mais parmi les gens, les députés ou les sénateurs, il n'y a pas... Voilà,
si, il y en a quelques-uns. Il y a 3-4 députés qui sont quand même assez... qui connaissent les vrais risques, qui comprennent les textes de loi et qui vont lutter contre ça. Mais ils sont très minoritaires. Et donc, au final, il y a de toute façon des consignes de vote qui sont passées au niveau du PS ou des Républicains et les textes de loi passent. Actuellement, de toute façon, vu le contexte, aussi bien national qu'européen que mondial, ils n'ont aucune difficulté à faire passer ces textes de loi. Je pense que la loi, la dernière, là, celle qu'ils sont en train de préparer, elle fera aucune vague. Surtout que maintenant, il faut savoir quand même que le ministre de la Justice actuel, il était à la commission des interceptions téléphoniques et informatiques. Donc c'est quand même quelqu'un qui baigne dans ce milieu de la surveillance généralisée depuis très très longtemps. Donc en le nommant, c'est sûr que c'était prévu d'avance qu'on aurait des lois encore pires. Ils avaient pris vraiment quelqu'un de le monsieur surveillance du PS. Donc il fallait faire assez peu d'illusions. Mais là, ils vont même plus loin qu'uniquement surveiller Internet. Là, leur dernier truc, c'est de surveiller les réseaux de téléphones portables. Donc là, dans la dernière loi, ils autorisent quelque chose qu'on appelle les IMSI catchers. Donc c'est les captureurs de IMSI. Donc c'est un bout du réseau de téléphones portables. Et donc là, jusqu'à présent, les premières lois, c'était on autorise juste. Alors c'est des fausses antennes en fait. Hein. Pour faire simple, c'est espèce de valises ou de petits camions qui vont faire croire à nos téléphones portables qu'ils sont le réseau de leur opérateur. On va quand même pouvoir passer le coup de fil parce qu'après c'est retransmis vraiment au réseau de l'opérateur, mais ça va permettre de pouvoir tout surveiller au niveau des téléphones portables. Ça, au début, ils avaient le droit de récupérer avec ça que les métadonnées. Alors c'est-à-dire qui appelle qui en fait et pour combien de temps. Donc ça c'était le premier texte de loi et fallait que le juge l'autorise. Après ils ont le droit de le faire sans le juge. Et puis maintenant, ils disent, vous avez même le droit d'enregistrer les communications et de garder les SMS, puis, si possible, pour plusieurs mois, voire 5 ans. Hein, Donc là, ils ont décidé quand même de garder toutes les informations qu'ils récoltent pendant 5 ans.
Et donc, si c'est une antenne un peu fausse, ça veut dire aussi que ça peut capter, pas forcément le loup solitaire dont on parlait, mais tout autour de...
Ah non, c'est pas que ça peut, c'est que de toute façon, il n'y a pas le choix, ça capte tout le monde. Donc et ils veulent bien l'utiliser aussi pour le trafic de drogue. Hein. C'est marqué dans le texte de loi. Hein. Donc si vous êtes dans le mauvais coin, c'est bon, ça, ils vont capter tout en une fois. On peut supposer que là, par exemple, avec les mouvements étudiants, contre la loi travail, où il y a des fois, ils ont l'impression qu'un peu d'envoyer beaucoup de policiers, donc ils doivent se dire que c'est un peu du terrorisme. On peut supposer qu'ils vont aller faire ça aussi, mettre une antenne devant une fac pendant une AG ou des choses comme ça. Des choses qui sont tout à fait possibles.
On continue après une pause musicale. This is a public service announcement. On est toujours sur Radio Canus 102.2 dans le grain de sable, donc avec Jonathan pour continuer donc à parler des questions de renseignement, de surveillance. Et là, on parlait justement d'un nouveau projet de loi qui permettrait d'intercepter les conversations téléphoniques sur les portables. Et tu parlais aussi, pas seulement intercepter, mais la question du stockage. Et je pense que c'est la même chose sur Internet.
C'est ça. C'est donc au début le but c'était ils avaient vendu le truc en disant oui mais vous inquiétez pas on va pas garder les données. Puis progressivement ça a changé. Alors ils disent qu'ils vont les rendre anonymes. En vrai c'est pas possible. Toutes les fois où il y a eu des tests pour montrer qu'une donnée était anonyme, c'est très facile de se rendre compte qui c'est. Forcément si je vais tous les jours consulter ma page Facebook, ben c'est sûrement ma page Facebook. Moi je consulte toujours les pages d'autres personnes, hein, mais que bizarrement c'est le même nom sur une dizaine de sites que je consulte tous les jours. Bon, il y a des chances que ça soit moi.
Et puis anonymiser, je pense que c'est des données qui les intéresseraient pas, donc ils auraient pas forcément de raison de les garder.
Oui, mais c'est comme ça qu'ils l'ont vendu pour l'instant. Donc, mais bien sûr, c'est pas le cas. Donc oui, le but c'est quand même de stocker toutes ces données. Parce que ça sera peut-être utile un jour. Donc là-dessus, il y a aux États-Unis la NSA qui a un budget assez conséquent, qui est l'agence de surveillance, le National Security Agency, donc c'est l'agence de sécurité nationale, qui a décidé de construire un grand centre de données. Donc un grand hangar avec plein de possibilités de stocker plein de données. Et donc eux, leur but, c'est simple, c'est de conserver tout ce qui passe sur Internet. Ils font pas dans le détail, ils archivent tout et ils suppriment jamais. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de place, ils construiront un nouveau bâtiment à côté. Donc ça coûte assez cher, mais au final c'est pas très très grave, parce qu'ils se sont rendus compte que des fois on avait des données qui pour l'instant étaient pas possibles à lire, mais que dans les prochaines années ça allait être possible. Donc ils ont décidé de tout garder. Donc, en France, théoriquement, ils ont mis des limites. Alors des fois c'est quelques semaines, des fois c'est quelques mois, et puis des fois c'est quelques années. Mais n'empêche que maintenant, c'est plus, ils veulent les conserver, ces données, pour justement faire des grands traitements globaux dessus. Et oui, c'est possible. Un bon exemple, Internet, il est entièrement indexé par Google. C'est-à-dire que Google a toutes les informations qu'il y a sur Internet, et quand on fait une recherche, il trouve les choses facilement. Donc, il suffit d'aller acheter la technologie de Google et de l'appliquer sur nos données de connexion. Ce sera peut-être pas celle de Google, ce sera peut-être celle d'un autre, mais c'est pas quelque chose qui en soi est un vrai problème. Le seul problème, c'est que ça coûte cher. Donc autant aux États-Unis ils ont le budget, autant en France on peut se dire qu'on a un petit peu moins le budget, mais c'est pas forcément vrai. On a quand même,
ça dépend des priorités qu'on met aussi.
C'est ça. Et visiblement l'État a acheté des machines qui permettent de traiter ces données-là. En tous les cas, les constructeurs de ces machines-là en ont vendu à l'État et aux militaires pour la surveillance. On ne sait pas à quoi elles servent, mais bon, on peut supposer que ça sert à ça.
Et ça veut dire pas droit à l'erreur, on peut nous ressortir des trucs des années après. Si tant est qu'en plus, il n'y ait pas d'erreur dans le mécanisme et qu'on ressorte des données
déjà,
qui ne sont pas les nôtres.
Parce que ça arrive. Très récemment, alors l'erreur ne venait pas de l'État, mais de l'hébergeur Numéricable, qui est un des grands hébergeurs français, a donné... On a demandé plusieurs fois à qui appartenait une adresse IP, donc l'adresse qui permet de... qui nous désigne sur Internet, en quelque sorte, à qui appartenait l'adresse IP pour avoir piraté des CD de musique. Donc, au lieu de donner vraiment le bon nom de la personne, il y avait un problème dans le logiciel, ça donnait toujours le nom de la même personne. Donc, il a soi-disant piraté 15 000 fichiers de musique et de films, mais encore plus grave, ils l'ont aussi donné son nom dans le cas d'enquête de pédopornographie, donc il a eu des perquisitions chez lui. Donc, on voit que ces mécanismes, quand ils marchent pas, ça peut avoir des répercussions quand même très très fortes sur la vie réelle et sur des gens qui n'avaient juste rien à voir. Il avait peut-être piraté une chanson, mais enfin bon, on fait pas une perquisition pour ça.
Et ça pose la question du contrôle de...
De qui contrôle ?
Oui.
Et c'est bien ça le problème, c'est que pour l'instant, les organismes qui contrôlent ça n'ont pas montré qu'ils étaient en capacité de le faire et de vraiment bloquer quand il y avait des problèmes conséquents qui arrivaient.
Parce qu'on a vu que le juge n'arrivait pas avant, mais il arrive pas forcément tant que ça après non plus.
Voilà, et jusqu'à présent, quand même, la surveillance, fallait qu'elle soit déclarée par le juge. Maintenant, on peut les faire dans le cadre des enquêtes préliminaires. Donc, c'est quand même un vrai changement qui a lieu. Surtout depuis l'état d'urgence, on voit qu'on a un vrai changement de politique. C'est vraiment la perte totale de l'aspect juge. Le contrôle des juges disparaît totalement. La séparation entre le judiciaire et la police devient quand même de plus en plus faible. Donc ça porte à des vrais problèmes. En plus, maintenant, avant, quand on fait une perquisition sur du matériel informatique, il faut que les policiers y viennent. Avant, pour pouvoir faire les copies, il fallait qu'ils aient l'accord du juge. Maintenant, avec l'état d'urgence, ils ont le droit de copier tous les mécanismes. C'est-à-dire que déjà, ils peuvent faire des perquisitions à peu près comme ils veulent avec l'état d'urgence. En plus, ils peuvent repartir avec une copie de tous vos téléphones, ordinateurs, etc. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, ils ont aussi le droit de, si vous êtes connecté sur Facebook et Google et compagnie, de faire une copie de tous vos comptes. Mais vu qu'il faut quand même se déplacer, c'est quand même un peu fatigant, il faut se lever tôt le matin, tout ça. Ben maintenant, ils ont le droit de le faire à distance. C'est-à-dire qu'ils ont le droit, depuis le commissariat, d'aller surveiller et de se connecter à vos noms sur vos comptes chez Facebook, chez Google, etc. Ça, c'est le nouveau but dans le projet de loi, de permettre ça. Donc c'est vraiment faciliter en plus ce travail de surveillance et vraiment de surveillance de tout le monde et très 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 intrusif.
Et ça sans qu'on le sache ou...
Bah non, vu que le but c'est que justement de récolter des preuves, le but c'est que justement les gens ne le sachent pas.
Et est-ce qu'on a quand même des moyens c'est un peu désespérant de ce qu'on a raconté, est-ce qu'il y a quand même des moyens de se défendre contre ça?
Alors, des moyens de se défendre, oui. Alors, au-delà de choisir qui nous surveille, c'est une première chose. Alors, dans le cadre des ISMI, Catcher et choses comme ça, à part ne pas utiliser son téléphone portable et les SMS, c'est quand même un peu compliqué. Pour autant, il existe des logiciels sur Android ou sur iPhone ou sur d'autres téléphones qui permettent d'échanger des messages qui sont chiffrés. Alors, depuis les révélations de Snowden, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a révélé quand même toute la surveillance généralisée des États-Unis, et pas uniquement aux États-Unis, mais vraiment à l'échelle globale, avec une collaboration active d'autres pays, l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, pour surveiller la globalité d'Internet et aussi de pirater les téléphones portables d'un certain nombre de dirigeants dans le monde, que ça soit en France ou en Allemagne. En Allemagne, ils ont un peu plus réagi. Nous, on a juste dit « Oh, c'est pas bien ». Mais ils avaient quand même piraté les téléphones des présidents. Donc, il y a tout un tas de logiciels qui existent justement pour échanger des messages de manière chiffrée. Donc, il y a TextSecure, qui est quelque chose qui est fait par des gens qui ont vraiment envie de faire de la sécurité forte pour protéger la vie privée des gens. Mais il faut voir que même WhatsApp, maintenant, qui est un logiciel qui est très, très facile d'utilisation et que plein de monde utilise, est censé chiffrer les messages pour justement éviter ces choses-là. Parce que bien sûr, les entreprises, suite à l'affaire Snowden, ils ont dû montrer qu'ils voulaient défendre la vie privée, même si le but, c'est quand même derrière de vendre leurs produits. Il faut que pour bien pouvoir vendre leurs produits, il faut qu'ils montrent qu'ils s'intéressent à la vie privée.
Finalement, la notion de vie privée, on a l'impression qu'on n'arrive plus à la défendre par la loi et elle revient par les entreprises, en fait, qui...
C'est ça. C'est que, vu qu'ils ont bien compris qu'il y avait quand même un créneau à avoir, en nous vendant des mécanismes soi-disant compatibles avec la vie privée, la vie privée revient par là. Mais après, il ne faut pas se faire d'illusions, quand même. Google, d'accord, et Apple, oui, ils chiffrent nos données, mais n'empêche qu'elles sont toutes rapatriées dans leur centre de données. Ils ont tous une copie de notre téléphone dans leur centre de données. Et si une loi comme celle qui passe en France passe, celle qui est sur la dernière en cours, ils seront obligés de déchiffrer ces données. Alors je ne sais pas comment ça sera possible. Est-ce qu'ils iront au conflit avec un gouvernement? J'en suis pas sûr. Mais c'est vrai qu'il faut quand même pas se faire trop d'illusions. Oui, c'est mieux que rien. Et de toute façon, c'est toujours mieux que rien. Mais c'est pas non plus une sécurité absolue. Il existe des petites entreprises qui, à partir de logiciels libres et de matériel, c'est-à-dire de téléphones libres, proposent justement des vrais téléphones sécurisés. Mais c'est quand même pour l'instant très très peu facile d'utilisation pour le grand public.
Techniquement, ça peut être. Mais par contre, par rapport à Internet, un ordinateur, utiliser des logiciels libres, choisir son hébergeur, ça peut quand même.
Choisir son hébergeur, ça peut quand même avoir un impact très fort. Suivant où est notre hébergeur, ça va quand même changer des choses. On a des hébergeurs en France qui ont essayé des fois de se battre. Quand Wikileaks, lors des premières fuites en 2011, était hébergé en France, ils ont quand même essayé un petit peu de se battre jusqu'à temps que le gouvernement fasse pression. Mais c'est quand même possible, même en France, de trouver des hébergeurs comme ça. Après, il y a aussi des hébergeurs qui sont plus ou moins respectueux de la vie privée. Il y en a le réseau Rise Up aux États-Unis qui, justement, met énormément l'accent là-dessus. Mais il faut quand même pas se faire d'illusions. Les données, elles sont aux États-Unis. Donc, légalement, les autorités américaines ont le droit de débarquer et de prendre leur serveur. Et là, il y aura rien qui sera possible d'être fait. Donc,
mais bon, en France, ça risque d'être pareil aussi.
En France, ça sera pareil. C'est bien ce que je disais, c'est on choisit qui nous espionne. Donc c'est vrai que là-dessus, après c'est vrai que aussi utiliser des logiciels qui sont complètement contrôlés par une entreprise, typiquement Microsoft et Windows, Mac avec Apple, ça amène le contrôle à une seule société. Et donc le point de pression se fait sur une seule société. Avec des logiciels libres, c'est un peu plus compliqué parce que c'est contrôlé par tout le monde. Ils peuvent mettre la pression sur une personne, mais n'empêche que derrière, il y en aura d'autres personnes pour contrôler. C'est quand même pas totalement infaillible. Désolé d'encore déprimer tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a un grand logiciel de chiffrement le chiffrement, ça se base sur des papiers ou des normes, un peu comme on a dans plein de secteurs maintenant. Et cette norme-là, en fait, ils ont réussi la NSA a réussi à mettre une faille dedans que eux connaissaient. Donc, c'est-à-dire que même si le logiciel, on était sûr qu'il était normalement sécurisé, qu'il permettait un bon chiffrement, en fait, la NSA avait un moyen de déchiffrer. Et on a mis plusieurs années à s'en rendre compte. Donc, le logiciel libre, c'est pas parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'utiliser des choses comme Windows ou Apple ou Mac, où on est sûr qu'il y a des copies possibles et que de toute façon, ces copies sont faites en permanence.
Et on peut aussi citer un certain nombre de... Alors, deux sites qui sont plus des sites militants, de personnes qui se...
Sur tout ce qui est vie privée et nouvelles technologies, ceux qui sont vraiment à la pointe, c'est la Quadrature du Net, qui, depuis le début, se battent sur les différents textes de loi, font des très bonnes analyses de ces différents textes de loi, donnent des informations, pointent aussi vers des logiciels qui permettent d'améliorer la vie privée. Donc, ils font vraiment un très gros travail de fond là-dessus.
Mais d'ailleurs, on mettra leur site sur le site d'Attaque et sur le blog de Radio Canu avec l'enregistrement de l'émission.
Et après, c'est vrai que les textes de loi, pour en avoir lu certains, c'est quand même, c'est un langage à part, quoi. Enfin, si on voulait faire quelque chose qui était incompréhensible par le grand public, un texte de loi, c'est parfait. Donc, il y a aussi heureusement, il y a quelques journalistes qui se sont spécialisés dans la surveillance et dans la lecture de textes de loi, justement sur la surveillance. Donc, il y a le blog de Bug Browser qui est sur Le Monde. Mais il y a aussi des gens, le fondateur du site internet Numérama, qui lui a même poussé jusqu'à faire un master de droit. Donc il passe beaucoup de temps à écouter les débats à la télé sur les lois de surveillance, les débats de l'Assemblée qui sont retransmis, et à décortiquer ces différents textes de loi. Donc c'est des gens qui permettent d'avoir ce recul sur le texte de loi et qu'est-ce que ça va impliquer vraiment dans notre vie de tous les jours, parce que c'est vrai que lire le texte de loi, c'est juste pas possible, quoi. C'est trop compliqué, il y a beaucoup d'un mélange de langage technique de députés et de langage technique informatique. Enfin, c'est fait pour vraiment ne pas être compréhensible.
Ce qui pose un vrai problème, parce que comme on dit que nul n'est censé ignorer la loi et que c'est des lois qui de plus en plus On donne l'impression qu'on fait de toute façon certainement quelque chose d'illégal. C'est bien pour ça qu'on est obligé de nous surveiller. Ça pose. On sait plus trop, voilà, où si ces textes sont incompréhensibles, est-ce qu'on est encore à faire des choses légales ou illégales. Enfin, quand on parlait du chiffrement, c'est se demander est-ce qu'un jour on nous dira mais attendez, votre logiciel de chiffrement, vous avez pas mal l'utilisé.
C'est ça. Ils aimeraient plus ou moins que ça, que les logiciels de chiffrement soient interdits, que l'utilisation des réseaux comme Tor qui permettent de se cacher un peu sur Internet soit aussi interdit. Enfin, c'est ce genre de but qui est recherché, ça c'est sûr. Après, on peut espérer qu'ils y arrivent pas. Le problème, c'est qu'avec la loi de protection de la nation, ils ont trouvé quelque chose de super, c'est que dedans, il y a la déchéance de nationalité. Et donc, pour l'instant, à part la déchéance de nationalité, je pense qu'on n'a pas trop entendu parler du reste du contenu de la loi. Alors maintenant qu'ils ont abandonné cette déchéance de nationalité dans la Constitution, etc., peut-être qu'on va pouvoir enfin parler du reste du texte de loi, qui est mais bien plus dangereux, parce que la déchéance de nationalité, en plus d'être inutile et de mettre une différence entre les nationaux et les binationaux, c'était le reste du texte de loi est encore plus dangereux, parce que il va nous concerner directement dans notre vie de tous les jours. Et vraiment, c'est un pas de plus vers un pays qui plonge dans l'autoritarisme. Et même si on dit oui, mais ils vont pas faire n'importe quoi, on ne sait pas par qui on sera gouverné par la suite. C'est-à-dire que les prochains auront accès à ça. Et il n'y aura plus de contrôle, ça sera dans les textes de loi. C'est-à-dire qu'il faudrait changer les textes de loi pour que le futur gouvernement ne puisse pas faire ce qu'il veut avec.
En tout cas, même si le futur gouvernement était le pire qu'on puisse imaginer, il a même pas besoin de faire les réformes, les textes sont déjà là.
C'est ça, ces textes de loi-là, je disais au début, ces lois-là, il y a 10 ans, le PS était mais debout pour les refuser, et toute une partie à l'époque, l'UMP était totalement contre cette surveillance-là. Et maintenant, c'est rentré, mais totalement, c'est accepté aussi bien, c'est accepté par les deux. Mais c'est des choses qui n'auraient jamais pu être possibles il y a 10 ans et qui sont maintenant totalement acceptables.
Et on va terminer dans quelques minutes l'émission. Alors, est-ce qu'on peut trouver quand même quelque chose d'un peu positif?
Ouais, je pense qu'il faut, faut se rendre compte que ces textes de loi, il faut pas se dire non, mais pour l'instant ça me concerne pas. Il faut réagir maintenant. Le dernier texte de loi, même si les boîtes noires, etc., c'est déjà passé. Le dernier texte de loi, il est pas passé. C'est maintenant qu'il faut lutter contre ce texte. Il faut pas qu'il passe. Et il faut se renseigner aussi sur. Qu'est-ce qu'on utilise, comment mieux défendre notre vie privée, est-ce que ça vaut le coup de donner accès à toutes nos données à tout le monde. Je pense qu'il faut la seule possibilité actuellement, c'est une prise de conscience des gens de l'importance de leur vie privée, et pas de dire mais non, mais moi je fais rien d'illégal. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est de savoir est-ce que tu veux que ton employeur ait accès à ton dossier médical, parce que ça va finir comme ça. Est-ce que tu veux que ta banque, quand tu fais un prêt, sache tout sur ta vie, parce que au final, ça pourrait aussi être le cas.
Elle le sait déjà. Elle peut pratiquement voir dans quel magasin on va, ce qu'on achète, si on est allé au restaurant, si on y va souvent.
C'est ça. Mais est-ce que elle te fera un prêt si tu as telle ou telle maladie?
En plus.
Et donc, on peut. Toutes ces choses-là, ça nous impacte. Pour l'instant, bien sûr, ils nous disent que c'est pour la sécurité nationale. Mais une fois que ces bases de données, elles vont être construites, une fois que ces données, elles vont être récoltées, ça pourra être utilisé pour tout et n'importe quoi. Et on ne sait pas à quoi elles vont être utilisées. Donc, le risque, c'est justement de les laisser construire ça. Et donc, même si c'est un petit peu trop tard maintenant, il faut quand même
être vigilant,
faut continuer à être vigilant. C'est aussi en se défendant les uns les autres, en utilisant du chiffrement, du logiciel libre, etc., qu'on, même si on les empêchera pas, au moins on les ralentira et on les gênera. Et si tout le monde s'y met, ça fera plus que les gêner. Et donc il faut continuer comme ça, il faut pas lâcher, et il faut surtout empêcher qu'il y en ait de nouvelles, parce que là quand même en 10 ans au début on en a eu quelques-unes, et puis là maintenant c'est tous les 6 mois quoi, enfin c'est ouais, ils vont finir plus que par faire des lois de surveillance. De toute façon à chaque fois qu'il y a un nouvel attentat ils vont en faire une. Donc là malheureusement on en a eu plusieurs, là ils sont relancés avec la Belgique, et à chaque fois ils essaient d'en rajouter. Bon là c'est vrai qu'au bout d'un moment, à part mettre un policier derrière chaque citoyen, ça va devenir compliqué, mais il faut continuer à lutter pour ça, parce que c'est vraiment un choix de société. Est-ce qu'on veut continuer à être dans une démocratie où il y a une vraie séparation entre la police, la justice, ou est-ce qu'on rassemble les deux, et dans ce cas-là on laisse le gouvernement décider. Et on espère, quand on élit quelqu'un, que pendant 5 ans, il suivra ce qu'on pense être bien.
Oui, et puis c'est une vigilance même, on voit qu'il y a de plus en plus de dématérialisation de toutes les démarches administratives qu'on fait. Au bout d'un moment, c'est à se demander si voilà, tous les documents ne se retrouvent pas au même endroit et permettent justement de mélanger emploi, santé.
Théoriquement, avec les nouvelles textes de loi, ils peuvent le faire pour la surveillance. Pour l'instant, ils peuvent le faire que pour la surveillance. Et c'est-à-dire que par la suite, potentiellement, ils pourraient le faire facilement pour d'autres choses. Donc c'est là où il faut rester, faut rester vigilant. Et il faut jamais se dire non, mais c'est pas grave. Non, il faut, c'est une vigilance de tous les jours. C'est comme avec la vidéosurveillance. On peut toujours se dire non, mais c'est pas pour moi. Mais n'empêche que grâce à la vidéosurveillance, ils gardent pendant des mois les vidéos des passages de tout le monde. Donc il faut faire très attention à ça.
Puis la vigilance aussi dans la tête. D'ailleurs, sur le site de la Quadrature du Net, il y a un texte qui est vraiment très très bien sur la question de l'intimité et de la vie privée, qui fait on n'a rien à cacher. Si, on peut avoir des choses à cacher, c'est pas illégal, c'est normal, c'est aussi se mettre ça dans la tête et le faire partager. On n'est pas forcément anti-patriote si on cache des choses.
On a tous le droit à nos secrets, qu'ils soient petits ou gros, et c'est pas à l'État de décider ce qui doit être secret ou pas. Donc c'est aussi ça. Est-ce que au final c'est ça? Est-ce qu'on veut rester dans une démocratie ou est-ce qu'on veut un basculement progressif vers un régime autoritaire? Donc c'est là-dessus qu'il faut rester très vigilant actuellement, et c'est là-dessus dont est le prochain combat.
Eh bien, merci Jonathan, et on vous dit à dans 2 semaines.